à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, je tiens absolument à vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est le père Jacques-Désiré Laval, le bienheureux Jacques-Désiré Laval. Il a été béatifié le 29 avril 1979. Et c'est une vie pas très longue. Il est mort à 61 ans. C'est le saint de l'île Maurice. Oui, de l'île Maurice. C'est un saint exceptionnel, un missionnaire comme il s'en trouve peu, et c'était un médecin qui a changé d'avis à un moment donné, qui a compris qu'il était peut-être préférable encore de faire plus et de se faire prêtre et de partir. Comme ça, pour l'autre bout du monde, l'île Maurice est à 900 kilomètres à l'est de Madagascar, dans l'océan Indien. Il y a des Mauriciens à Montréal, ce sont des gens qui en général parlent très bien français. Ce sont des Québécois remarquables, j'en connais quelques-uns que j'aime beaucoup. Ici Raymond Beaugrand-Champagne, à Rencontre spirituelle. Jacques-Désiré Laval est né en 1803. Il était le troisième d'une famille. Il n'avait que 7 ans et demi lorsque sa mère est morte. Elle laissait 5 enfants. Son père s'était remarié, puis 2 autres enfants sont nés de la deuxième union. Et après des essais plus ou moins réussis d'études au début, là, sur la conduite du frère de son père, l'abbé Laval, qui était curé de campagne, et puis au petit séminaire d'Évreux, là, en France, son père l'a envoyé au collège Stanislas de Paris. Ben oui, on a un collège Stanislas ici à Montréal, n'est-ce pas, Outremont? Depuis déjà, les années 30, c'est une succursale de ce grand collège Stanislas de Paris, où donc Jacques-Désiré Laval a fait ses études. Il est sorti du collège Stanislas, bachelier ès-lettres, à l'âge de 22 ans, et l'idée lui était devenue de se faire prêtre, mais il se fait médecin à la place. C'est un bel homme, on a des photos de lui d'ailleurs. J'ai devant moi un livre que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, Le Père Jacques Laval, le Saint de l'île Maurice, de Joseph Michel. Un assez gros bouquin que j'avais dévoré, ça se lit comme un roman, hein. Il y a de très belles photos à la fin, et ça a 450 pages. Mais c'est passionnant, c'est une vie admirable. Donc c'est un bel homme. Bien qu'il ait une épaule légèrement plus haute que l'autre, il est passionné de chevaux, hein. Son frère disait qu'il était plutôt mauvais cavalier pourtant. Il était de compagnie très agréable, il aimait le confort, même un peu le luxe. D'ailleurs, étant médecin, bien, il vit confortablement de sa profession, tout en se montrant assez charitable. Hein. Il écrit d'ailleurs, « Je travaillais beaucoup, je fatiguais plusieurs chevaux. » Vous savez ce que ça veut dire, fatiguer des chevaux. Hein. « Ne faisant pas payer mes visites, j'étais appelé de tous côtés. Je ne tenais pas l'argent. » Je n'avais pas d'inclination pour le mariage. Alors, cette vie de célibataire heureux là, ne dure que 5 ans. Quand on raconte des vies, on s'attend bien souvent à découvrir dans ces histoires-là des événements extraordinaires, une espèce de miracle, n'est-ce pas, un signe du ciel, une aventure qui ressemblerait peut-être à celle d'André Frossard, qui s'est converti comme ça à côté d'un pilier à l'église Notre-Dame à Paris, ou bien Saint-Paul, n'est-ce pas, il y a 2000 ans, qui tombe en bas de son cheval sur le chemin de Damas. Mais tout ça, ce serait trop facile. Hein? La très, très grande majorité des conversions se font tout délicatement à l'intérieur. Hein? Parce que les saints, ce ne seraient plus des modèles. Que de grâce de conversion, ou grâce tout court, que ces grâces-là soient gratuites, hein? Ça n'empêche pas que tout le mérite vient de la personne dans un sens qui y répond. Et le père Laval fait un jour une chute de cheval qui pourrait aussi bien être mortelle. Un accident comme ça qui peut arriver à tout le monde n'est pas en tout cas pour rien dans la décision qu'il a prise d'entrer au séminaire. Pensons à ce grand acteur américain qui jouait Superman, qui est tombé en bas d'un cheval il y a quelque temps, et qui est devenu comme un homme porte-parole des choses les plus valables. Je l'entendais récemment à la télévision américaine. C'est bouleversant d'entendre cet homme qui est encore très beau, mais qui est réduit à son fauteuil roulant et qui s'est trouvé une vocation fantastique. Et en réalité, malgré les apparences, le docteur Laval, Jacques-Désiré Laval, se sent de moins en moins un homme heureux. D'ailleurs, il a abandonné toute pratique religieuse, il ne pratiquait plus. Alors, les sentiments de sa jeunesse vont finir par remonter à la surface. Alors, il se met à rechercher la compagnie de gens d'esprit religieux. Il n'est pas l'homme des demi-mesures. Il se jette bientôt lui-même à corps perdu dans l'adoration de Dieu. Il n'y a pas de souci, ça ne l'inquiète pas d'étonner son entourage, qui s'étonne évidemment, quand tout à coup il annonce son entrée au séminaire Saint-Sulpice à Paris. On se dit que c'est une lubie de nouveau converti, que c'est la ferveur d'un pécheur repentant qui n'allait pas à l'église. Il y en a qui croient ça. Mais heureusement, ceux à qui il demande conseil jugent plus simplement qu'il n'est pas taillé pour se satisfaire de l'espèce d'honnête moyenne des gens ordinaires qui se contentent de vivre une vie chrétienne sans dimension profonde. Non, c'est pas lui. Il n'est pas comme ça. Il devient séminaire et s'il continue sur sa lancée, alors là, il met les bouchées doubles au grand séminaire. Comme pour rattraper le temps perdu à l'égard de Dieu. Il a beau essayer de ne rien faire paraître de ses mortifications, sa mauvaise mine commence à trahir ce qu'il fait. Alors, il est entré au célèbre séminaire de Saint-Sulpice en 1835. Il est ordonné prêtre à la fin de décembre 1838, puis il est nommé 15 jours plus tard, desservant d'une petite paroisse de son diocèse d'origine, c'est Painterville, qui est une jolie petite localité, une trentaine de kilomètres. Les Mauriciens, eux autres, parlent de miles, ou de milles, 19 000 pour les Mauriciens. Ils sont encore sous l'influence anglaise, leur île ayant été conquise par les Anglais en 1810. Alors donc, à une trentaine de kilomètres de Rouen. Rouen, bien, comme vous savez, c'est la capitale de la Normandie, pays une grande partie des Québécois de langue française, d'où nous venons, il y a des siècles et des siècles, et où sainte Jeanne d'Arc a été tuée et brûlée sur un bûcher. Hein. La paroisse compte à son arrivée seulement 483 habitants, petite paroisse. C'est une population mi-agricole, mi-ouvrière. Il y a une douzaine de personnes qui assistent à la messe du dimanche, une demi-douzaine qui font leur Pâques, oui, c'est tout. Le reste ne fréquente même pas l'église, sauf à l'occasion des baptêmes, des mariages et des enterrements. Ça ressemble un peu au Québec d'aujourd'hui. On nous dit qu'en ces deux premières et seules années de ministère en France, parce que après 2 ans de ministère comme prêtre, là-bas, il va partir en mission. Mais l'abbé Laval a obtenu dans son village une 50aine de retours à Dieu, une 20aine de communions d'adultes, puis la régularisation de quelques unions. Ça ressemble beaucoup au curé d'Ars. Alors, il va en obtenir bien d'autres au cours de ses 22 ans de vie à Maurice, à l'île Maurice, dans l'océan Indien. 22 ans. Il va transformer l'île. Ce n'est pas dans ce style, évidemment, de comptabilité qui est intéressant. La sainteté, c'est pas des chiffres. Même quand c'est impressionnant, même quand on dit que Saint-François-Xavier a baptisé 2 millions de personnes, il est des saints qui sont morts pauvres, même en ce domaine, hein, à qui l'on peut attribuer aucune conversion connue de leurs contemporains. Mais les paroissiens du Père Laval témoignent à l'unanimité qu'il est un saint original, au dire de certains. Il ne pense pas au nombre de baptêmes, des communions, des mariages, non, il le juge sur la manière dont il le voit mener sa vie de prêtre, et sur les œuvres par lesquelles il manifeste sa foi, les œuvres, c'est les actions auprès des gens, les plus pauvres, les pécheurs, les délaissés. Il est à l'église dès 4 heures du matin. Évidemment, dans ce temps-là, on se levait beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Mais c'est comme si un prêtre était à l'église, peut-être aujourd'hui, là, à 6 heures, 6 heures et demie, en adoration. Jacques-Désiré Laval, l'abbé Laval, n'en sort qu'à 10 heures. Il reste 6 heures à l'église. Et en dehors du temps de la messe, bien, il prie. Les premiers temps, genouillé sur les marches de l'autel, et plus tard, il est caché en arrière, étendu à même la dalle de pierre. On dit ça, pas de sens. Hein? Paraît que frère André faisait un peu ça. Hein? Un jour, il confiera qu'en hiver, il faisait rudement froid, puis il disait « N'importe ». Je vous assure qu'après cette oraison, j'avais le cœur chaud. Quel exemple à suivre est difficile. Quant aux œuvres dont j'ai parlé, là, en dehors de son ministère paroissial, mais personne ne s'étonne que le presbytère devienne le rendez-vous des miséreux. Et la gouvernante ronchonne parce qu'il en fait trop pour ses professionnels de la mendicité. Écoutez bien ça. Les mendiants se donnaient le mot pour le gruger, hein? Et puis sa ménagère, sa gouvernante, lui dit « Mais il vous trompe, monsieur le curé. » Et lui, il répond « C'est extraordinaire. » Non. Ce n'est pas moi qui le trompe. C'est eux-mêmes. Pas bête. L'abbé Laval n'est que pendant 2 ans, donc, curé de campagne en France. A-t-il jamais pensé y rester toute sa vie? Toujours est-il que l'un de ces petits riens qui, dans une vie, change le cours des choses, ça va être pour le nouveau curé de Painterville, le passage chez lui de 2 séminaristes de Saint-Sulpice. Bien oui, des séminaristes extraordinaires, et à 1 an de sa sortie, il n'est pas sans se rappeler, entre autres condisciples, ces messieurs, comme on disait, messieurs Levavasseur, originaire de Bourbon, aujourd'hui La Réunion, était originaire de l'autre côté de la terre, quoi. Monsieur Tisserand, qui était né d'une mère haïtienne. Et le fameux Liberman, ce juif converti, qui était séminariste en même temps que lui, qui va être canonisé, lui aussi, fils de rabbin. Donc, avec les 2 premiers, à cette époque où l'abolition de l'esclavage est à l'ordre du jour, tout le monde parle de ça, mais la conversation revient toujours sur le sort des Noirs, puis leur évangélisation. Le 3e, le juif, M. Liberman, écoute. Ce pauvre M. Liberman... Je vous ai dit qu'il était fils d'un rabbin, un rabbin d'Alsace. Son père l'a maudit à cause de sa conversion au catholicisme. Je comprends, le vieux rabbin, il faut pas lui en vouloir, hein. Être rabbin et voir son fils devenir prêtre, quelle horreur du pauvre vieux rabbin. Hein. Ça fait pitié au fond, dans un sens. Mais c'est un homme admirable de piété, Liberman, et aussi de résignation. Il a été pris d'épilepsie à un moment donné, puis il a dû quitter le grand séminaire. Il a des dons exceptionnels de conseiller, puis on lui a trouvé, bien qu'il ne soit pas prêtre encore, une charge de responsable d'un noviciat chez les eudistes. De toute façon, des 2 séminaristes en visite, l'abbé Laval apprend que l'idée d'évangélisation de la race noire, dont aiment s'entretenir M. Levavasseur, M. Le Tisserand et M. Liberman, a fait son chemin dans son cœur, à tel point que M. Liberman lui-même s'en est allé à Rome pour soumettre à l'approbation du pape le projet fantastique d'une société de prêtres qui se consacrerait à cet apostolat. Et dès lors, les paroissiens se sont fait illusion, les paroissiens de Painterville, s'ils ont cru pouvoir retenir leur pasteur. Parce que du moment qu'une voie s'ouvre pour aller rejoindre les plus infortunés, ça dépend plus de lui, du père Laval. C'est un pèlerin de l'absolu, Jacques-Désiré Laval. Beaucoup plus qu'un envoyé. C'est un appelé. C'est un être extraordinaire, vous allez voir. Cependant, le jour où il les quitte, là, ces braves paroissiens de Painterville, ils sont loin, eux, de se douter qu'ils s'en allaient continuer à l'île Maurice, ce qu'ils l'ont vu faire chez eux, et que leur pauvre curé deviendrait l'homme le plus connu et le plus vénéré dans ce pays de l'océan Indien. Alors pourquoi Jacques-Désiré Laval, l'abbé Laval, ex-médecin, se rend-il à l'île Maurice, dans l'océan Indien, plutôt qu'ailleurs? De toute façon, on laisse partir Jacques-Désiré Laval sans même lui donner le temps de faire son noviciat, tellement on en a besoin là-bas. Monseigneur Collier en a vraiment besoin. L'évêque, Mgr Collier, avait été en Europe à la recherche de personnel. et s'était déclaré le protecteur du futur institut fondé par Liberman. Et on doit bien à cet évêque, ce nouvel évêque de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, de lui donner quelqu'un. Il s'en est fallu de peu que l'île Maurice ne connaisse jamais sa chance, c'est pour ainsi dire à contre-cœur, qu'elle a permis même à Jacques Laval, qu'elle considère aujourd'hui comme un héros national, de débarquer sur son territoire. Il est débarqué là le 15 septembre 1841, et le pays est alors une colonie britannique. Le gouverneur doit mal boire son thé ce matin-là quand on vient lui annoncer que sur le bateau arrive, la veille, il y a l'évêque nouvellement nommé, puis quatre missionnaires, dont un Français. Est-ce qu'il n'a pas demandé à son ministre que la présence ecclésiastique française soit déclarée indésirable dans l'île? Pourtant, l'île est française. Est-ce qu'on n'a pas connu ça ici au Canada? Bon, c'est toujours le même problème. Et providentiellement, bien, son message a touché Londres. Quand le navire a déjà pris la mer, alors le gouverneur anglais n'a pas été écouté. Et de surcroît, dans la même note, la venue de l'évêque est estimée également inopportune, quoique de nationalité britannique. Là, il est réputé trop français de sentiment et d'éducation, ce Mgr Collier. Alors finalement, les choses s'arrangent au plus bas de ce que Mgr Collier, lui-même en situation inconfortable, a pu obtenir. Sur une simple décision du gouvernement de Londres, au moindre incident provoqué ou non, ben, le père Laval peut être du jour au lendemain renvoyé. Chez lui. Mais il n'y a plus de chez lui, n'est-ce pas? Il a tout légué à sa congrégation. Alors il aborde donc l'île Maurice comme un prêtre surnuméraire et les mains vides, ne sachant pas trop s'il va pouvoir y rester à cause des Anglais. Et il ne faut pas trop jeter de toute façon la pierre aux représentants de l'Empire britannique. Soyons objectifs. Hein? On vit avec son époque, puis en attendant la fameuse entente cordiale, comme on dit, mais les Anglais et les Français se prennent au jeu de se détester cordialement. De toute façon, ça fait des siècles qu'ils ne s'entendent pas tellement. Et au surplus, le père Laval n'en est pas à une acceptation près dans la voie qu'il a choisie d'humilité puis de dénuement. Et trop de circonstances ont concouru à l'amener là où il est, à une vocation étrange, mais très belle. Et le père Laval a contribué à l'émancipation des Noirs, déclare même les non-chrétiens de l'île Maurice, en leur annonçant Jésus-Christ, précise les chrétiens. En fait, le principe de l'abolition de l'esclavage a été proclamé en 1835 pour ne venir en application, si on peut dire, que 4 ans plus tard, hein? 1839, quoi. Alors, on peut parler d'une libération effective. Ce qui, d'ailleurs, signifie beaucoup plus. On va pouvoir s'en rendre compte. D'ailleurs, pour rester dans le vrai, on se doit de signaler, tout d'abord, que l'intérêt porté par l'Église catholique au sort des Noirs déshérités, ben, ça date pas simplement du père Laval. Oublions ça. Hein? Parce que, il n'y a pas tout fait tout seul. Au cours du 18e siècle, on est au 19e siècle avec le père Laval, mais le siècle précédent, au 18e, mais les fils spirituels de Saint-Vincent de Paul, les lazaristes, je vous en parlerai après-demain, quand je vous parlerai de Jean-Gabriel Perboire, un lazariste qui vient d'être canonisé il y a quelques semaines. Eh bien, les lazaristes qui sont les fils de Saint-Vincent de Paul, eux, ils ont commencé l'évangélisation là-bas. Ils ont fait honneur à leur société admirable. Par le travail religieux puis humanitaire, ils ont instruit les esclaves. Ils étaient esclaves, mais ils les instruisaient quand même. Ils les défendaient, ils les protégeaient dans toute la mesure de leurs possibilités, qui étaient bien bien limitées. C'était l'essentiel de leur apostolat durant 70 ans sur l'île Maurice. Un apostolat qui a été accompli souvent et surtout au début dans des conditions épouvantables. Parle toujours contre l'Église, contre l'Église, contre l'Église. L'Inquisition, les croisades. Mais les milliers de gens qui ont fait du bien à travers l'histoire, prêtres, laïcs, évêques, cardinaux et même papes, comme on n'aime pas tellement parler, bien voilà. Voilà une occasion encore de soulever l'admirable apostolat de l'Église, dans ses membres, et la période qui précède immédiatement l'avenue du Père Laval, a été surtout marquée par un prêtre mauricien, c'est un ancien avocat, Hippolyte Déroulède, dont j'aimerais vous parler un jour. Bon, il avait un zèle fantastique. Il est mort bien mal payé de ses peines. Il est mort en disgrâce. Et de leur côté, il y a aussi les protestants qui pourraient s'étonner que l'on ne parle que du Père Laval quand ils ont eu, eux, Jean Lebrun, un pasteur de la Société missionnaire de Londres, qui a milité toute sa vie pour l'égalité des races, la scolarisation. Il n'y a pas que des catholiques. De toute façon, il n'empêche qu'à l'époque, la situation de l'Église catholique n'est pas réjouissante. Mais plutôt en perte de vitesse, même en décadence. Ceci explique pour une part, mais pour une part seulement, là, on va en découvrir un autre motif, que contrairement à l'attitude des autorités civiles, la population fait une belle fête aux nouveaux missionnaires qui représentent l'espoir d'une régénération. Et le Père Laval a vraiment, lui, aimé les pauvres. N'oublions pas le beau texte des Actes des apôtres. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. » Bien, c'est comme ça que le Père Laval agit sur l'île Maurice. Il a aimé les pauvres encore qu'il y ait pauvres et pauvres. Et la pauvreté revêt différentes formes, des divers degrés dans la pauvreté. Et pour le Père Laval, bien, les pauvres sont devenus dès le premier jour et pour toute sa vie. 22 ans dans l'île Maurice. Sa raison d'être, dans la mesure même de leur infortune. Et tout en bas de l'échelle sociale, mais il y a les Noirs. Les Noirs qui sont sortis récemment de l'esclavage. Les problèmes posés par l'émancipation de ces Noirs sont pas particuliers à l'île Maurice. Ils ont été les mêmes dans tous les pays qui ont compté des esclaves. Et on suppose bien que devenus libres, ces pauvres êtres humains ne vont pas être traités à l'égalité par les citoyens de vieille date, par les Blancs surtout. Comment recouvrer du jour au lendemain le sens de la dignité, se faire une idée des droits, devoirs et convenances qui existent dans les relations de la vie en société. J'avais un ancien esclave noir américain comme ça qui s'était réfugié ici au Québec et qui était devenu le cocher de mon grand-père. Beau grand champagne, et puis mon grand-père n'était pas riche, mais il avait le cocher, il le nourrissait, lui donnait asile, et ce pauvre noir était tout heureux d'être bien traité et de manger à la table de la famille. Il n'en revenait pas. Alors, sans doute, à l'heure de l'émancipation, leur sort n'est plus aussi terrible qu'au début. Et puis, c'est pas le grand nombre de ces malheureux qui va retourner à la terre sur laquelle ils ont sué. Non, ils vont dans les villes, ils deviennent oisifs, et puis ils deviennent brutaux. Il tombe dans l'immoralité. Et puis, toute la population blanc et gens de couleur nés libres ne peut que craindre le pire. Et c'est là l'autre raison pour laquelle Mgr Collier et ses missionnaires sont si bien accueillis, du fait que les Noirs affranchis sont baptisés en grand nombre. Eh bien, ces ecclésiastiques dont on dit le plus grand bien seraient en principe les plus qualifiés pour leur donner un peu de morale. Immoralisé, comme on dit. Et dans ces conditions, on chante à la cathédrale un grand Te Deum en leur honneur. C'était un Te Deum moins peut-être de triomphe que de soulagement, et le Père Laval se met aussitôt à l'œuvre. Et tout le monde sait que d'accord avec son évêque, il va s'occuper avant tout des Noirs, et on s'attendrait que les Blancs, rassurés, mettent en pratique leurs bonnes dispositions là, du premier jour. Il l'aide dans son entreprise qui est bien difficile, mais c'est pas ce qui arrive. Ils réagissent comme si moraliser les Noirs voulait seulement dire les apprivoiser. Alors, le Père Laval sera bientôt l'homme qui va jeter le pavé dans la mare. Hein? Et ils vont être épouvantés par ses prises de position. Et il sera d'un courage rare. Il va devenir le trouble-fête, si on peut dire, de l'île Maurice. Et il va transformer les Noirs. On dit que c'est un original. Il commence à pousser l'originalité un peu loin. Quand il lui prend l'étrange idée de dire chaque dimanche une messe spéciale pour les Noirs, hein, pour qu'ils aient l'Église bien à eux, et cela parce qu'il lui déplaît qu'on leur assigne aux messes ordinaires une place au fond, derrière la grille. Enfin, comme cela se passe à midi, au moment où l'on fait la sieste, on peut laisser faire et l'Église ne va pas s'écrouler pour autant. Et le Père Laval fait ce qu'il a à faire. Il baptise, il régularise la vie des Noirs, il les transforme petit à petit. Et décidé donc à continuer dans la même ligne, le Père Laval s'encourage lui-même, il se répète que le bon Dieu était plus fort que le diable. Puis il a raison. Car Dieu va lui faire gagner la partie, avec le concours même des chrétiens de la population blanche qui vont se transformer petit à petit. Il compte de nombreux amis dans la communauté blanche, parmi eux des convertis de sa main. Qu'il se soit fait une réputation comme apôtre des Noirs ne doit pas laisser supposer, qu'il s'en est tenu là d'ailleurs, hein. Sur les registres de la cathédrale sont consignés toutes sortes de baptêmes d'Indiens, des Indes. Car à l'île Maurice, il y a un mélange de races extraordinaire. Il y a aussi des Asiatiques, des Chinois, bouddhistes. Alors il a baptisé beaucoup d'Indiens des Indes. Son zèle était ouvert à tous. Mais il faut bien admettre, il le reconnaît lui-même d'ailleurs, qu'il ne va pas de main morte avec les opposants. Quand il veut gagner un point, il ne se gêne pas. Il n'y a pas le choix d'ailleurs. Ses contemporains le disent, tout aurait été perdu s'il avait faibli. Mais bien entendu, les oppositions vont mettre du temps à s'éteindre. Parce que dès que les conversions se multiplient, le cadre du Père Laval déborde le cadre de l'Église. Ce ne sont plus des histoires de clochers, là. On rencontre maintenant un peu partout des enfants du Père Laval qui ont le goût de transmettre leur foi. Alors les journaux y trouvent à se mettre quelque chose sous la dent, là. Il y a une polémique qui se déclenche. Les uns ne voient plus dans cette soi-disant religion qui s'extériorise avec le port de médailles, les processions, toutes ces choses-là, ils n'y voient qu'une forme encombrante, sinon dangereuse, de superstition. On lit ça encore dans nos journaux ici au Québec. Les autres font état des résultats obtenus rien que sur le plan social, et ne serait-ce que l'assainissement des mœurs, la pratique de l'entraide. En cela, le Père Laval, défenseur des Noirs, n'a pas lieu de s'irriter trop de ça. Ce qui va, à contre-courant, provoque inévitablement des remous. On n'a rien sans peine. Quand on veut changer les choses, il faut lutter. Et tous ces incidents ne nous permettent pas, en tout cas, de parler de persécution. On ne peut pas dire qu'il a été persécuté. Il a été nommé à son arrivée vicaire à la cathédrale, il va en garder le titre toute sa vie. Il a demandé à s'installer au fond de la cour du presbytère, dans une espèce de baraque, en planches, de deux pièces, qu'on décore du nom de pavillon de bois. Et ainsi, il vit au niveau des pauvres, et ceux-ci peuvent entrer de plein pied chez lui comme chez eux. Le pavillon de bois, malheureusement, n'existe plus, c'est peut-être dommage. Il serait aujourd'hui un autre lieu de recueillement dans la vie. Ça compléterait les pèlerinages immenses qui se font à son tombeau, hein. On peut dire qu'aujourd'hui, en ce 9 septembre, il y a foule à l'île Maurice. Les gens de toutes les religions, de toutes les races, de toutes les conditions sociales se pressent auprès du tombeau du Père Laval aujourd'hui. Du bienheureux Jacques Désiré Laval. Il suffirait d'ailleurs de rassembler quelques objets pour donner une idée de la vie comme menait l'homme de Dieu. Et autour du crucifix, le cilice qu'il portait, on pourrait mettre en place de choix, puis il y a les deux catéchismes qu'il a composés lui-même pour mettre à la portée de ses fidèles les grandes vérités de l'Évangile, puis il y a les portraits des hommes et des femmes, des populations noires, on en a peut-être quelques-uns, dont il a su se faire des assistants dans son entreprise d'évangélisation. Puis la reproduction des chapelles qu'il implantait un peu partout dans l'île. La croix et le cilice, d'ailleurs, dans une petite exposition comme ça, rappelleraient sa conviction personnelle. Sa conviction personnelle très importante que les tout premiers moyens de gagner des âmes à Dieu sont la prière et la mortification. La prière et la mortification. C'est ce qu'il a commencé par faire en attendant que les pauvres s'aperçoivent qu'il était venu tout exprès pour eux.
Le père Laval n'est pas venu pour faire du social, mais pour évangéliser. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Enseigner comment on se rend digne du baptême par lequel on devient enfant de Dieu, c'est par le fait même apprendre la pratique de ce qu'on appelle les vertus chrétiennes, qui sont éminemment humaines. Quelles sont ces vertus? La charité, la justice, la chasteté. Enseigner les vérités de la foi à des esprits qui ne sont pas préparés, c'est assez difficile. Les pionniers de la première évangélisation l'ont tous appris, le père Laval l'a appris. Lui, le père Laval, il réussit mieux puis plus vite que les autres. C'est pas parce qu'il y a des trouvailles de génie. Le secret de sa réussite, en dehors de ses mortifications, n'est pas à chercher très très loin. Il pratique à un degré difficile à atteindre par la plupart des gens. Mais il pratique quelque chose qui est très rare, le respect profond de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. C'était bien la première fois de leur vie que ces esclaves d'hier se rendaient compte, même lorsque leur père Laval s'en prenait à leur manquement, qu'ils étaient dignes d'être profondément aimés, aimés, aimés. Une manière de pratiquer le respect de ses semblables et de se placer à leur portée, sans qu'ils soient capables de déceler qu'on y met peut-être malgré soi un peu de condescendance, que l'on a l'air au fond d'abdiquer un peu de sa supériorité, en tout premier lieu quand il s'agit d'enseigner. Et d'ailleurs, il disait, un missionnaire doit avoir acquis sur son peuple un tel ascendant par sa sainteté qu'on le croit sur parole. Il doit exposer simplement les choses de la foi. Combien je souhaiterais que le synode que l'on tient à Montréal se souvienne de ces paroles du bienheureux Jacques-Désiré Laval. Je les répète. Un missionnaire doit avoir acquis sur son peuple un tel ascendant par sa sainteté qu'on le croit sur parole. Il doit exposer simplement les choses de la foi. C'est tout. S'il est à la base un mystique, sa messe sera transformée. Sa prédication sera tout à fait transformée. Son attitude et tout. Son exemplarité, ce qu'il va faire auprès des gens, va les convertir. La simplicité n'est pourtant pas de mode même en chair à cette époque de romantisme, mais il va parler calmement. Le père Laval s'arrachait les cheveux devant la prédication des prêtres qui parlaient d'Hannibal, de Carthage et puis de toutes sortes de choses que les Noirs ne comprenaient absolument pas. Cet homme, en parlant d'un prédicateur qui prêchait de façon incompréhensible, nous a fait beaucoup de mal. Il a donné à la population des goûts qui ne lui conviennent pas. Il faut, à ces pauvres ouvriers, un enseignement simple à leur portée, non pas de brillants discours et des formes prétentieuses. Et désormais, il leur faudra des choses trop compliquées. Mais le vrai seul est aimable. Et les convertis en sont venus à se dire que les flonflons, même quand cela se passe à l'Église, comptaient peu comme manifestation de la foi. C'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient la confiance, l'affection du père Laval. Pour prendre leur place dans la société, ils doivent apprendre à ne pas vivre au-dessus de leurs moyens, par exemple à ne pas dépenser le peu d'argent qu'ils ont en poche pour le simple plaisir de parader. Par exemple, encore, compte tenu que le droit à l'instruction est égal pour tous, là, à ne pas par ambition forcer leurs enfants, qui n'ont pas les dispositions, à poursuivre des études universitaires ou même simplement du latin et du grec, alors que le pays de l'île Maurice a tant besoin de bons ouvriers puis que l'agriculture manque de bras. Il faut savoir faire ce que l'on peut faire. Et on constate finalement, à force de conversion, que de baptiser, ça ne rend pas les gens nécessairement des saints. Un biographe du Père Laval a écrit « C'est de cette évangélisation des Noirs par les Noirs que naquirent et le grand mouvement de conversion de toute l'île et les chapelles qui ont surgi de terre, comme la floraison d'un grand printemps. » Un grand printemps. Soulager les misères, prendre sur lui les souffrances des hommes pour les élever au-dessus d'eux-mêmes, c'est toute la vie du Père Laval. Il est de ce fait tout normal qu'on pense à lui pour porter les consolations de la foi à cette catégorie de malheureux qui sont entre tous les prisonniers, dont surtout les condamnés à mort. Alors il remercie le ciel d'avoir été désigné pour ce qu'il appelle cette belle tâche. Je salue ici tous les aumôniers de prison que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je suis allé parler aux prisonniers ici et là. Quelle tâche admirable ils ont. Et selon certains, le Père Laval aurait baptisé 63 000 Noirs, ce qui ferait tout de même beaucoup pour un seul homme. On peut penser que les Mauriciens rassemblent sous le nom de Jacques-Désiré Laval tous les prêtres qui, entraînés par son exemple, ont été avec lui les artisans de toute cette régénération spirituelle et morale de leur pays. Il n'y a pas eu que le père Jacques-Désiré Laval, et les autres prêtres ont été aussi de bons prêtres, mais lui, il a été de façon exceptionnelle. Et pendant les 6 premières années, il a vécu seul. Il ne cessait pas de réclamer de l'aide. Mais finalement, l'aide est venue. Les compagnons du père Laval ont été des travailleurs courageux, en tout cas irréprochables, quant à la dignité de leur vie. Mais sans lui, il y a fort à penser que l'un ou l'autre de ses confrères découragés aurait mis la clé sous la porte et du même coup, ça en aurait été fait de la poursuite de l'œuvre d'évangélisation à Maurice. Parce que l'île Maurice, c'est quand même... Aujourd'hui, c'est plus d'un demi-million de personnes, c'est du monde en tous les cas. Car les missionnaires n'arrivent plus à suffire à la tâche, et du moins, ils ont prouvé leur réconfort de se savoir utile, d'être bien dans leur peau. Finalement, le père Liberman est mort, le fondateur des Spiritains, des Pères du Saint-Esprit. C'est le nom qu'a pris la congrégation fondée par le père Liberman. Et ce jeune supérieur général, 34 ans, qui lui a succédé, est un homme d'administration, mais qui n'a pas l'expérience du ministère. Puis il écrit à la communauté de l'île Maurice, « Vous êtes trop missionnaire et pas assez religieux. » Ce à quoi un des missionnaires lui répond sans trop de ménagement que s'il venait voir sur place, mais il changerait peut-être d'avis. Parce que les directives partent de Paris, ça prend 6 mois souvent pour faire de la correspondance. On vit dans des situations difficiles. Et finalement, vendredi 9 septembre 1864, à 3 heures du matin, 1 heure... plutôt qu'à Pinterville, son village où il a commencé son sacerdoce, le père Laval se rendait à la cathédrale à 3 heures du matin. Et avec le temps, les mortifications sont devenues effrayantes. Hein? Pratique un jeûne perpétuel, il porte le cilice. Il dort sur le sol. Je connais bien des gens qui dorment sur le sol, et pas nécessairement par mortification, c'est parce qu'ils disent qu'ils dorment mieux sur le sol que dans un lit trop mou. Ils pratiquent des privations de toutes sortes. Il va jusqu'à la limite, là. Quand son pauvre corps n'en peut plus, comme il dit. Les supérieurs, du reste, ont bien été obligés d'intervenir, ce qui lui fait dire... Comme se moquant lui-même, il dit « Je sais que le corps n'est pas fâché de ces conseils-là qu'on me donne. » À 59 ans, c'est un homme usé. Il est incapable désormais de s'imposer des macérations. Il en vient à tenir un langage un peu plus raisonnable. Mais il ne change pas. Et l'attachement des Mauriciens a explosé au grand jour dès l'annonce que le père Laval n'allait pas survivre à une nouvelle attaque d'apoplexie. Ceux qui avaient à se rendre à son chevet... devait franchir un barrage de Noirs en pleurs. Il est mort le vendredi 9 septembre 1864, au début de l'après-midi, quand le dimanche suivant, à 11 heures du matin, on a fermé le cercueil Eh bien, 20 000 personnes avaient défilé devant le corps. Il y en eut 40 000 ce même jour, en un seul jour, à faire de ses obsèques un véritable triomphe. Il avait souhaité être enterré au pied du calvaire devant l'église de Sainte-Croix, afin, dit-il, que ses enfants puissent s'arrêter au passage à prier pour le repos de son âme. Et là, le cortège a mis 2 heures à parcourir les 3 kilomètres du trajet, et ceux qu'il appelait ses enfants, là, les Noirs, se sont disputés l'honneur de porter à bras seulement sur quelques pas le lourd cercueil doublé de plomb. Ainsi est disparu le père Jacques Désiré Laval. L'histoire de l'île Maurice ne manque pas d'hommes illustres. Beaucoup ont leur monument, bas-relief, un buste ou une statue en pied sur les places ou dans les jardins publics. Bon, un peu ici, comme ici au Québec ou un peu partout en Occident. Mais si nous prenons l'idée d'interroger l'homme de la rue, là, sur tel ou tel de ces personnages devant lesquels il passe chaque jour, là, on peut parier que notre Mauricien va répondre que le personnage a dû faire de grandes choses de son vivant, et pour le reste, bon, il va dire, il faut demander aux historiens. Parce que ces grands hommes sont du passé. C'est un peu comme ça à Montréal. Hein? Puis on demande sur l'avenue du Parc qui est Sir Georges-Étienne Cartier, à beaucoup de gens, les gens ne le savent pas. Hein? Mais si on pose la même question au sujet du Père Laval à l'île Maurice, tout le monde, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle race, va nous dire que le Père Laval est un saint. Et si l'on demande pourquoi, la réponse est toujours à peu près la même. Écoutez bien ça, c'est très important. Parce qu'il a aimé les pauvres. Il a aimé les pauvres. Pas facile, hein? Nombre de chrétiens, sans autrement s'occuper de béatification et de canonisation, ajoutent le nom de Laval au nom de baptême. Beaucoup de gens ont comme nom de baptême Laval. On voit ça ici au Québec de temps en temps. Des enfants, des garçons qui sont appelés Laval en l'honneur de Monseigneur François de Montmorency Laval, premier évêque de Québec, qui a été béatifié lui aussi. Aux yeux du touriste, l'île Maurice, c'est déjà le pays du Père Laval. Hein? Parce que les enseignes, les inscriptions, frontons des institutions, les boutiques, les magasins, les plaques de rue, les avenues, l'arrière des camions, l'île est d'un bout à l'autre sillonnée d'autobus. Et puis à Port-Louis, la capitale, le premier d'une file qui va démarrer au complet affiche comme destination P. Laval, c'est-à-dire Père Laval. La dévotion populaire a en effet comme point de ralliement le tombeau dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est assailli aujourd'hui. Il ne se passe pas un jour de l'année où il ne soit visité. Et chaque 9 septembre, c'est le jour anniversaire de la mort, comme je vous l'ai dit, mais ils sont jusqu'à 60 000 pèlerins à s'y rendre en autocar, en autobus, ou à pied, individuellement, ou en groupe. Des groupes qui chantent et puis qui prient. Certains, dit-on, prévoient que les confessionnaux vont être assiégés. Alors, ils se sont confessés en route, tout en marchant. Ça commence à minuit, jusqu'à 6 heures de la soirée. Et les messes vont se succéder de 2 heures en 2 heures. C'est comme ça aujourd'hui. En ce jour du 9 septembre. On peut s'empêcher de comparer elle-même avec Fatima, dans un certain sens, hein? À cette exception près que Fatima rassemble seulement des chrétiens, mais ici, dans la foule qui défile lente et silencieuse, là, en direction du tombeau, par rang de 10 personnes, 24 heures sans interruption, mais toutes les religions sont représentées. Quelle religion? Bien, autour de son tombeau, le père fait une espèce d'unanimité. Il y a évidemment des catholiques et des protestants, hein? Et des anglicans, qu'ils soient d'origine créole, indienne ou chinoise. Il y a aussi les hindous, de religion hindoue, des musulmans, des bouddhistes, des confucianistes. Tout le monde vénère le Père Laval. Et dans ce quartier musulman, en grande partie déserté par la population catholique à la suite de bagarres, malheureusement, qui avaient eu lieu quelques années auparavant, les pèlerins se sont vus accueillir par une banderole « Bienvenue aux pèlerins du Père Laval ». Alors, cette diversité de religions puis d'ethnies divise la population en autant ce qu'on appelle des communautés. Pas facile, le multiculturalisme. Ça pose inévitablement un problème de coexistence. Pour leur part, les hindous se répartissent en hindis, d'une part, puis beaucoup moins nombreux, les tamouls. Le chauffeur de taxi, un tamoul, qui ne sait pas à qui il a affaire, explique à son client que c'est aujourd'hui le jour de Kavadi, une fête de sa communauté. On en vient parler des différentes manifestations religieuses dont, par souci d'unité nationale, l'année est marquée par autant de jours fériés, congés publics, dit-on à Maurice, et quand la conversation tombe sur le Père Laval, mais le chauffeur interrompt. Le Père Laval, cela, c'est pour toutes les communautés. Et le soi-disant touriste croit alors qu'ils vont intéresser le chauffeur de taxi. Il va dire, « Ce que vous dites là me fait plaisir, je suis de Normandie, donc je suis un compatriote du Père Laval. » Et le chauffeur de taxi, qui n'est même pas catholique, va lui répondre tout tranquillement, puis il lève même pas le nom, il va dire, « Oui, de Normandie, mais le Père Laval est d'abord mauricien, monsieur. » Est et non était, car pour les Mauriciens, le Père Laval n'est pas un homme du passé. Il est toujours présent. Et ce qui est extraordinaire, il est toujours confident de leurs soucis. Tous ces groupes qui l'entourent, tous les groupes qui aujourd'hui entourent le tombeau du Père Laval, c'est le silence absolu. Les entrées et les sorties ne troublent pas le silence de ces gens. Les prières ne s'entendent pas parce que c'est des gens de différentes religions. On voit leur lèvres qui remuent. Ça dure depuis 100 ans. On peut discuter au sujet de toutes ces fouilles qui accourent au tombeau. D'accord, on y va pour des miracles. Il y a une part de vrai. Quoi qu'il en soit, la popularité du Père Laval date de son vivant alors qu'il n'était pas question de miracles. Le témoin le plus crédible à le sujet, c'est lui-même. Quand il avoue sa confusion, il disait « Ce bon peuple me considère comme un saint alors que je suis le plus misérable des pécheurs. » Et sans doute que le bruit courait qu'il aurait opéré 2 guérisons au cours de sa vie. Des miracles, il y en a eu au moins un après sa mort. Un miracle extraordinaire. Un miracle œcuménique. L'Église l'a confirmé, et pourtant, pour reconnaître officiellement un miracle, l'Église ne regarde pas la dépense. C'est tout un procès qui peut durer des années et des années, et ainsi en a-t-il été pour la guérison d'un Anglican, oui, d'un Anglican dont le visage n'était qu'une plaie purulente, en dépit de tous les soins de la médecine, et, écoutez bien ça, il fut instantanément guéri lors d'une visite au tombeau. En dehors des interventions miraculeuses, mais il y a les grâces, les secours, les coups de main que chacun demande pour soi ou pour d'autres. Enfin, dès qu'il a un souci ou un chagrin, tout Mauricien pense à s'adresser au Père Laval pour arranger ça. Oh, ça ne vole peut-être pas très haut comme estime de la sainteté. Mais est-ce pour autant tellement condamnable quand on pense que le Christ lui-même, menant sa vie d'homme sur terre il y a 2000 ans, puis assistant à un repas de noces avec sa mère, Marie, il s'est laissé faire pour changer de l'eau en vin, seulement pour que les mariés un jour soient pas trop humiliés parce qu'il restait plus de vin. La renommée du Père Laval a aujourd'hui reçu sa consécration officielle de la part de l'État mauricien, un buste en bronze du fameux sculpteur italien Mazzone a été offert à la nation par le délégué de Maurice à l'ONU. C'était remis en dépôt à l'Église catholique. Tous les journaux parlent de lui. Et l'Église a décidé d'inscrire Jacques-Désiré Laval sur la liste des bienheureux le 29 avril 1979. L'Église n'a fait que consacrer la ferveur de tout un peuple, le peuple de l'île Maurice. Il y a eu, pour tous, dans l'île Maurice, évidemment une grande joie ce jour-là, le 29 avril 1979. On peut lire des vies du Père Laval, il y en a en librairie d'excellentes. Je vous signale celle de Joseph Michel, le Père Joseph Michel. Il y a aussi, publié toujours chez Beauchesne, Des extraits de sa correspondance choisis et présentés par le père Joseph Lécuyer, spiritain, comme le père Laval. Il y a des spiritains à Montréal. Il y a même une maison pour les jeunes spiritains.